en Luc 2,40, l'enfant, c'est-à-dire Jésus enfant, croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La sagesse de Jésus, il croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse. Donc il s'agit là de l'enfant, au verset 52 du même chapitre, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. On peut dire que le verset 52 a peut-être davantage trait à l'adolescence du Seigneur et le verset 40 à une enfance plus tendre. La toute première jeunesse de Jésus. Mais déjà, il était rempli de sagesse. On peut constater la sagesse chez un tout petit enfant. Elle doit apparaître, mais bien sûr, chez le Seigneur Jésus, elle était à l'état de perfection, remplie, la plénitude, l'état de perfection. Donc, le Seigneur Jésus, exempt de péché, a manifesté la sagesse dans une existence humaine qu'il était venu prendre. Une existence humaine. Alors, pour nous, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus est un exemple, pas seulement pendant son ministère, mais il est un exemple en tout ce que l'Écriture nous apprend de lui. Eh bien, la sagesse de Jésus, à quoi pouvait-elle répondre? Eh bien, elle ne pouvait répondre qu'à d'abord une connaissance vraie de Dieu, de soi-même, des hommes et des choses. Je résume en ces quatre points la connaissance sans laquelle il ne peut pas y avoir de sagesse. Vous savez que dans le sens biblique, le mot sagesse porte toujours la notion de connaissance, une connaissance équilibrée, une connaissance bien utilisée. Même si on veut supposer que, au cours de l'enfance de Jésus, la connaissance n'a pas eu toute son étendue, si vous voulez, au tout départ de cet enfant, n'est-ce pas? Et puis que elle est apparue au fur et à mesure que les facultés de l'enfant se développaient, ce que semble nous dire un passage du prophète Ésaïe. Mais cette connaissance, de toute manière, était à l'état de perfection, et c'était une connaissance de Dieu, de soi, des hommes et des choses. Même si la connaissance n'atteint pas au tout début son complet développement, cette connaissance est toujours bonne. Une connaissance de Dieu, même si elle est fragmentaire, elle n'est que bonne. Connaissance de soi, connaissance des hommes, connaissance des choses, tout cela pouvait être, si vous voulez, fragmentaire, mais imaginez quelque chose qui apparaît, qui naît, dans la perfection, n'est-ce pas, et qui va prendre son développement. Imaginez par exemple un bouton de rose, pas un bouton. Eh bien, ce bouton, il n'a pas atteint son développement. Les pétales sont encore bien petites, n'est-ce pas? Mais il va s'ouvrir, il va se développer, et la perfection est déjà dans le bouton. Elle est déjà là. Eh bien, il y avait cela, n'est-ce pas? La sagesse du Seigneur Jésus était ceci, ne pouvait être que cela. Connaissance de Dieu, connaissance de soi. Autrement dit, il n'y avait pas d'erreur. En lui, donc en Jésus, se présente une vraie et juste appréciation des faits de la vie. Si je dis cela, si je remarque cela, c'est en vue, bien entendu, de l'avantage que nous allons en tirer. Nous ne regardons pas le Seigneur Jésus simplement, n'est-ce pas, pour le regarder et essayer d'aligner des pensées qui seraient simplement théoriques. Non, nous le regardons à titre de modèle. Hein, il faut regarder le Seigneur Jésus comme source, mais aussi comme modèle. Il est notre modèle. À l'exemple de lui, nous devons marcher. Par conséquent, il faut avoir toujours cet objectif. Donc, il y avait en lui une vraie et juste appréciation des faits de la vie, à cause de cette connaissance, à la lumière des réalités éternelles qui affluaient en lui. Les réalités éternelles étaient là en lui et n'étaient pas gênées, entravées par un état de péché puisqu'il n'y en avait pas. Un parfait savoir en toute chose apparaît donc en Jésus, se forme vite en lui, parce que n'oublions pas qu'il s'agissait de sa nature humaine, n'est-ce pas, la nature divine est là, si vous voulez, comme elle est entière, la nature divine en lui, mais ce n'est pas elle qui a à intervenir. Elle n'intervient pas, si vous voulez, n'est-ce pas, elle se tient là, bien sûr, mais elle n'intervient pas parce qu'elle gênerait le développement de la nature humaine, et il faut que cette nature humaine se développe, il faut que Jésus vienne comme un germe d'humanité sortant d'une terre desséchée, il faut qu'il grandisse dans les conditions qui lui sont faites par Dieu, mais il faut qu'il grandisse. Par conséquent, nous le considérons dans sa nature humaine, et en lui les facultés vont se développer, il va apprendre à discerner le bien du mal, cette sagesse qui va lui apporter un discernement, c'est ce que nous dit le livre d'Ésaïe, au chapitre 7 et verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Nous l'avons étudié, ce passage, particulièrement. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Voyez-vous, par conséquent, la divinité est bien là. Dans ce fils qui est donné, dans cet enfant qui va naître d'une vierge, c'est pas, la divinité est là, il s'appelle Emmanuel. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que Dieu a voulu que le prophète lui assigne ce nom, qui ne va pas être le nom qu'il portera plus tard, mais qui va être ce chêne, cette désignation caractéristique nécessaire, n'est-ce pas, Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Sache rejeter le mal sans pour autant le commettre. Ne pas mal comprendre les choses, n'est-ce pas. qu'il sache rejeter le mal au fur et à mesure que l'idée du mal se présentait, car l'Épître aux Hébreux nous dit bien que Jésus a été tenté en toutes choses. Et vous comprenez que Satan n'a pas attendu qu'il soit grand pour le tenter. S'il avait pu le faire tomber, même dans sa jeunesse, il n'aurait pas manqué de le faire. Hein, par conséquent, il faut, au fur et à mesure que ce petit enfant grandit, que ses facultés s'ouvrent, n'est-ce pas, un parfait savoir, donc, en tout apparaissait en Jésus, se forme en vie, prend son volume, n'est-ce pas, prend son volume en lui, l'enfant croissait, n'est-ce pas, non seulement physiquement, mais tout croît en lui, tout se développe selon la loi de Dieu, et ce parfait savoir va prendre son développement, sa plénitude, au fur et à mesure que le temple, qu'est son corps est le temple, n'est-ce pas, ne l'oublions pas, perdons pas cette idée-là. Son corps est le temple, Malachie l'avait dit, Jésus le confirmera dans Jean. Le temple qu'est son corps va se développer pour recevoir cette sagesse en sa totalité parfaite. Et alors, il arrive un fait inouï, c'est que pour la première fois sur la terre, depuis la chute, s'accomplissait le développement normal de l'enfance à la jeunesse, à l'état d'homme mûr, de par la libre action de Dieu, car rien ne se fait sans l'action de Dieu, mais pour la première fois, cette action de Dieu pouvait se donner libre cours, n'est-ce pas, et dans ce rejeton, ce rejeton d'humanité, comme m'ont dit les prophètes, dans ce germe d'humanité sortant d'une terre desséchée, n'est-ce pas, l'action de Dieu pouvait faire ce qu'elle voulait, parfaitement ce qu'elle voulait, elle n'était pas entravée par le péché, par la déformation du péché qui n'était pas là. N'est-ce pas? Vous voyez? Alors, donc, s'accomplissait le développement normal de l'enfance, de par la libre action de Dieu, et par l'apport de la connaissance à laquelle aucun obstacle n'était opposé. Le péché, n'est-ce pas, dans un enfant normal, oppose 1000 obstacles à l'action de Dieu. Les obstacles sont là, n'est-ce pas, interposés à l'action de Dieu. Quand vous voyez des petits gamins, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans notre temps, qui sont à 3 ans, épouvantables, qui vous sortent des mots orduriers, on ne peut mieux, n'est-ce pas? Et puis, qui s'élèvent, qui grandissent à 4, 5 ans, 6 ans, mais c'est épouvantable. Ce sont des petits paquets d'orgueil. L'action de Dieu, elle s'opère, elle tente à s'opérer, elle veut s'opérer dans le développement, autant que Dieu, n'est-ce pas, est intervenu dans le développement de l'embryon. Il est même intervenu pour l'apparition de l'embryon, bien entendu, mais le psaume 139, vous connaissez le psaume 139, n'est-ce pas, qui nous montre Dieu intervenant dans le développement de l'embryon. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu m'as vu, tu m'as tissé, n'est-ce pas, tu m'as moulé. Donc, autant Dieu intervient dans le développement de l'embryon, autant, après la naissance, n'est-ce pas, à l'issue de la vie intra-utérine, autant l'action de Dieu va-t-elle se faire sentir et doit-elle se faire sentir pour la croissance et le développement. Mais elle, c'est là qu'elle rencontre toutes sortes d'obstacles venant des parents, pouvant venir des éducateurs, venant du milieu, venant de ce germe de péché qui est dans les enfants eux-mêmes, n'est-ce pas, et qui ne demandent qu'à se manifester. Eh bien, dans le Seigneur Jésus, donc, on peut dire que, pour la première fois sur la terre, s'accomplissait un développement normal de l'enfance, par la libre action de Dieu. La rupture de l'homme avec Dieu, cette rupture qui a été la conséquence, la grande conséquence de la chute, cette rupture est supprimée en cet enfant unique. Son corps demeure le corps mortel, bien entendu, il a pris une chair semblable à celle du péché, pour la bonne raison, c'est que c'est dans cette chair-là qu'il doit combattre, c'est dans cette chair-là qu'il doit mourir aussi. Il ne peut pas venir dans une chair humaine, tel que l'avait, mettons, Adam avant, parce qu'alors, n'est-ce pas, il ne pourrait plus mourir, il faut bien qu'il vienne dans une chair mortelle. Mais tout en lui est déjà de l'homme nouveau. N'oublions pas que, indépendamment, n'est-ce pas, de l'accomplissement de la rédemption, il y a deux choses à voir dans le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? L'accomplissement de la rédemption, mais un deuxième accomplissement, l'accomplissement de l'homme nouveau. Eh bien, déjà, n'est-ce pas, dans son enfance, l'homme nouveau apparaît. Il a beaucoup encore de parcours à faire. C'est ce que signifie le chapitre 52 d'Ésaïe. Il montera, il s'élèvera bien haut. Ça, il part de le point de départ, humainement parlant, n'est-ce pas, dans l'humanité de Jésus, eh bien, il y a un point de départ qui est la chair semblable à celle du péché, mais tout de suite l'action de Dieu se fait, et voici qu'un homme nouveau apparaît. Cet homme nouveau devra passer par la mort, sortir de la mort, n'est-ce pas, et ressusciter, et il devra encore être glorifié, là, alors, l'homme nouveau sera parfait, aura atteint sa perfection, sa grande réalité, sa réalité éternelle, prêt à être communiqué aux autres hommes. Essayons de regarder un peu ce qu'était le corps de Jésus. Il nous est très peu parlé de son corps, sa vie physique, si vous voulez, n'est-ce pas? Il nous en est très peu parlé. Mais nous allons tout de même jeter un petit regard, qui n'est pas indiscret puisque l'Écriture nous le permet, sur le physique du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que tous les peintres se sont appliqués à donner une expression au visage de Jésus, n'est-ce pas? Ou alors à en faire vraiment un type d'homme magnifique, extraordinaire. En cela, ils se sont tous trompés. Évidemment, ils ont flatté. Ils ont flatté l'attente des milieux chrétiens de ce moment-là qui entraient de plus en plus dans la confusion et dans l'erreur, n'est-ce pas ? Recherchant dans la chair ce qui aurait dû être recherché dans l'esprit. Mais enfin, ils se sont tous donc trompés. Et nous lisons au chapitre 52 d'Ésaïe, verset 13. « Voici, mon serviteur prospérera. » Ici, « mon serviteur », c'est bien Jésus, n'est-ce pas ? C'est le Messie. « Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Cette élévation n'a pas trait, bien entendu, à la question morale, à l'état moral, ni même à l'état spirituel. Il s'agit de cet homme, de cette humanité que Jésus a pris en s'abaissant, par abaissement, et bien entendu, il faut que cette humanité croisse, monte, il y aura un chemin à parcourir sur la terre, un chemin qui va passer dans le tunnel du sépulcre, et puis, après, résurrection, et ça monte jusqu'à Dieu, il s'élèvera bien haut. Hein? Ne voyez pas ça, surtout sous un jour moral. Il s'agit du travail de formation de l'homme nouveau, dans la personne de Jésus. Verset 14. « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qu'est-ce que signifie « son visage était défiguré » On pourrait traduire autrement que cela, le mot choisi par second n'est pas très heureux. D'autres traductions disent « tant son visage était défait », n'est-ce pas? Ce serait déjà mieux. « Tant son visage était défait, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Mais regardons au chapitre 53, verset 2, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » La terre desséchée, c'est l'humanité. « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Voyez-vous, méprisé, abandonné des hommes. Voilà une indication qui rejoint le visage défait, l'aspect qui différait de celui des fils de l'homme, en ce sens que il n'était pas un beau type d'homme, n'est-ce pas? Et même, il était plutôt fragile, faible, un rejeton qui n'avait ni beauté, ni éclat, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Eh bien, telle était la personne du Seigneur Jésus au physique. Le plan de Dieu exigeait cela. Et si nous, n'est-ce pas, nous disions « Oh, mais non, le Seigneur Jésus ne peut être qu'un homme magnifique, le plus beau, au point de vue physique », nous montrons surtout que nous ne sommes pas fidèles à la parole de Dieu, parce que j'ai entendu ça, sommes pas fidèles à la parole de Dieu, et nous faisons passer des préférences qui sont charnelles à la méthode que Dieu s'est choisie lui-même et qui elle est spirituelle. Donc, Dieu exigeait cela afin que le physique ne joue absolument aucun rôle dans l'attirance que le Seigneur va exercer sur d'autres hommes. Et nous savons qu'il a exercé une puissante attirance Cette attirance doit s'exercer par son esprit seulement. Et pour qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas, pour que ce soit l'esprit dans le Seigneur Jésus qui attire, qu'il n'y ait pas, par exemple, n'est-ce pas, que ça ne se mêle pas avec une sympathie, ou alors, n'est-ce pas, la sympathie d'ailleurs est souvent commandée par l'extérieur, le physique, le sourire, on dit quelquefois, n'est-ce pas, il a un physique avenant, n'est-ce pas, eh bien, rien de tel ne devait intervenir à concurrence de l'esprit. Seul l'esprit devait attirer les autres hommes. Il n'émanait de son physique, par conséquent, aucune attirance d'ordre psychique, n'est-ce pas ? Aucune sympathie n'était là du fait de son physique plaisant, n'est-ce pas ? Pas de physique plaisant pour faire naître cette sympathie d'ordre psychique, ben de l'âme, mais tout devait être attirance de l'esprit. Cependant, outre cet aspect extérieur, le Seigneur Jésus était vigoureux dans son physique, extrêmement vigoureux. Il était vigoureux et la maladie n'est pas plus son fait que le péché ne l'a été. Pas de maladie, pas de péché, aucune atteinte quelconque avant la passion qui est appelée son heure. Mon heure est venue. Quand son heure sera venue, là, il sera livré. Mais si je dis qu'il est vigoureux, c'est que quand on fait une étude de la passion, je la désigne comme on le fait généralement, n'est-ce pas, l'arrestation du Seigneur Jésus, tous les mauvais traitements qu'il va subir, hein, si on fait une analyse de tout ça et de sa crucifixion, de la manière dont il meurt sur la croix poussant un grand cri, on s'aperçoit qu'il y avait en lui, c'est ce que tous les hommes, disons les médecins, les hommes de science qui ont examiné ça, n'est-ce pas, avec un esprit de crainte, bien entendu, un esprit de piété, tous ceux qui ont examiné cela, et même ceux qui ne croyaient pas à la divinité du Seigneur Jésus, ont tous convenu qu'il disposait d'une vigueur extraordinaire. Extraordinaire. Donc, n'est-ce pas, voilà, nous avons ces deux choses qui sont presque en contradiction, n'est-ce pas, pas nécessairement, mais enfin, qui, n'est-ce pas, semblent s'opposer. Il n'est pas un beau type d'homme, il n'a rien pour attirer les regards, mais son physique est d'une vigueur extraordinaire. Vous savez, quand les rois d'Israël sont venus, le premier, ça a été Saül. Lui, alors là, c'était un mannequin, n'est-ce pas ? Il dépassait tout le monde d'une tête, hein, et puis c'était un beau type d'homme, là. Alors là, le peuple était content d'avoir un roi comme ça, n'est-ce pas ? Magnifique, il était beau, il était superbe. David, lui, était un jeune homme blond, il était beau de figure dans son adolescence, mais il fut ensuite plutôt un homme au physique effacé. Ce n'est pas du tout non plus par son physique qu'il a pu attirer, hein. Mais Saül, le roi de la chair, lui, alors là, c'était le colosse apparent, le colosse dans l'apparence, c'est pas grand, bien fait, musclé, dépassant tout le monde d'une tête. Tel ne pouvait pas être le Seigneur Jésus. Alors, il nous est dit qu'il était rempli de sagesse. Alors, cette sagesse, elle nous intéresse énormément. Parce que, n'est-ce pas, nous marchons à l'exemple de Christ. Et généralement, on s'imagine que marcher à l'exemple de Christ, c'est uniquement le Christ vu dans son ministère. Bien, c'est utile, certes. Il y a beaucoup, tant de leçons à recueillir pendant ces quelques trois ans et un peu plus de ministère. Mais, attention, il faut quand même considérer Jésus, comme je le disais tout à l'heure, dans toutes les mentions que nous fait de lui l'Écriture. Alors, la sagesse, nous voyons ici, n'est-ce pas, une croissance dans l'enfance et l'adolescence avec cette plénitude de sagesse. Mais, chers amis, nous sommes des enfants quand nous venons à la foi. Nous sommes des enfants. Nous naissons de nouveau. Et nous devenons de nouvelles créatures, nous est-il dit. Mais ces nouvelles créatures sont encore souvent en difficulté, n'est-ce pas, au cours de luttes par la chair. Et il est indispensable, nécessaire, que nous nous affranchissions de tout cela et que nous grandissions. Or, cette croissance des enfants de Dieu, vous avez vu qu'elle est, signalée, cette croissance que nous appelons une croissance d'ordre spirituel. Mais attention, elle affecte également notre être tout entier. C'est une erreur de la voir uniquement sur le plan spirituel. Eh bien, cette croissance des enfants de Dieu doit avoir pour modèle la croissance de l'enfant Jésus. N'est-ce pas? Il n'y a aucune raison que pour cette croissance, nous ne portions pas les regards sur l'enfant Jésus. Alors, pour la sagesse, nous allons voir ce que l'Écriture nous en dit. C'est une des choses très intéressantes à étudier, et chers amis, je puis vous le dire, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à acquérir. Pour ça, je ne vous en fais pas, je ne vous fais aucun grief, n'est-ce pas? Mais il faut le savoir et il faut s'efforcer d'acquérir cette sagesse qui est enseignée par l'Écriture. Elle est pour nous. Alors, nous allons voir dans le livre des Proverbes, chapitre 1 des Proverbes, et d'abord le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas quelque chose de révolu comme d'aucuns le pensent, parce que Jean a fait dans sa première épître une mention en disant que l'amour bannit la crainte, bannit la peur, la crainte qui est une peur. Mais il y a une autre crainte qui n'est pas la peur, mais et qui est bien nécessaire et qui est une forme de sagesse. Elle est la piété, elle est aussi la haine du mal, nous dit ce livre des Proverbes au chapitre 8, verset 13. Chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine de, par conséquent, ce qui est considéré par, comme mauvais, ce qui est considéré comme contraire à la volonté de Dieu. La crainte, donc, la haine du mal. La haine du mal. Alors, cette crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il faut que, tant que nous sommes en séjour sur la terre, que nous ayons cette haine, cette détestation du mal. Elle est indispensable. Dans la crainte de l'Éternel, il y a aussi un autre élément, un élément de piété respectueuse. C'est une crainte filiale. Et chers amis, nous avons une légèreté de comportement, de conduite, souvent, est tout à fait à l'opposé de la crainte de l'Éternel telle que je viens de la montrer, c'est-à-dire une piété respectueuse, une adoration dans laquelle il y a toujours, n'est-ce pas, le sentiment de la grandeur de Dieu et celui de notre petitesse. Et quand nous parlons légèrement des choses de Dieu, ou si nous nous comportons au cours des réunions d'une façon légère, nous montrons que la crainte de Dieu n'est pas en nous. Et ça, c'est un grand, grand dommage. Regardons les Proverbes 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints est l'intelligence. Chapitre 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. la mort a différents pièges, évidemment, et d'où viennent ces pièges? De celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire de Satan. Hein? Alors, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Le Nouveau Testament nous montre que la crainte de l'Éternel continue à exister, et il ne faut pas, n'est-ce pas, la supprimer à cause de ce que dit la première épître de Jean, qui, je vous l'ai indiqué, parle, elle, de peur. Bien que ce soit le mot crainte, elle veut dire une crainte qui soit peur. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, mais il faut professer pour lui une crainte filiale, la crainte de fils et de filles, parce qu'ils connaissent sa grandeur et qui ne peuvent pas en user avec Dieu avec liberté et désinvolture. Ça n'est pas possible. Alors, Philippiens 2.12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, dit encore là. Voyez-vous, c'est pas le tremblement de la peur, mais c'est le tremblement qui fait que nous nous sentons vraiment une petite créature de Dieu, et nous sentons l'objet de l'amour de Dieu. C'est déjà quelque chose qui nous confond, que le Dieu, le grand Dieu de l'univers, nous aime, et vraiment nous le montre. Hein? Pour Jésus, il y avait aussi cette crainte de l'Éternel. Jésus, homme, n'est-ce pas ? Ésaïe 11, son humanité devait être pénétrée de cette crainte, car elle fait partie de la sagesse. Verset 1, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Voyez-vous comme elle était, n'est-ce pas, vraiment, tout était imprégné, peut-on dire, de cette crainte de l'Éternel, tout en était, on était pétri, n'est-ce pas, parce que elle est nécessaire, elle est l'élément vraiment nécessaire de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Si nous voulons marcher à l'exemple de Christ, ne faut-il pas que cet esprit de l'Éternel soit sur nous? Quand nous parlons de la plénitude du Saint-Esprit, mes amis, on ne peut pas parler d'une plénitude ou d'un esprit qui ne serait pas l'Esprit de l'Éternel et qui ne serait pas par conséquent non seulement esprit de force, mais esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, si, n'est-ce pas, on veut voir dans l'Esprit de Dieu uniquement la force et non la sagesse, quelle erreur ne commet-on pas? Et on a vu certains chrétiens, hélas, n'est-ce pas, prétendre être sous la puissance du Saint-Esprit, dans la force, et puis manquer en toutes circonstances de sagesse, et notamment de cette crainte de l'Éternel, cette crainte filiale faite de respect à l'égard de Dieu. Dans la sagesse, il y a aussi le discernement et la réflexion. Discernement et réflexion. Au Proverbe, chapitre 8 et verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Alors, il y a donc là le discernement et la réflexion. Discernement, c'est une chose. Je n'insisterai pas parce que nous en avons fait déjà des études du discernement et de la réflexion. Mais, mes amis, combien c'est nécessaire cela. Le discernement des choses les meilleures, dit Paul. Avoir ce discernement. Ne pas prendre, adopter telle solution, telle manière d'agir, n'est-ce pas? Non. Mais savoir, en réfléchissant sur les choses, voir celles qui correspondent à la volonté de Dieu. Et puis, il y a la connaissance et l'intelligence. Dans Proverbe 2, verset 1, « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Souvent, on me demande quelle est la solution pour sortir de mes difficultés. Eh bien, ici, il y a une réponse. Si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme le trésor. Évidemment, cette poursuite, cette recherche ne peuvent se faire que lorsqu'on est tendu vers le Seigneur, lorsque l'on recherche en même temps la communion, une communion intime avec le Seigneur. Mais il faut penser à cela, le Seigneur veut que nous y pensions. Il ne veut pas nous donner quelque chose à quoi nous n'aspirions pas. Il faut donc aspirer à cela, pour que le Seigneur puisse nous donner comme il l'avait donné à Salomon dans le début de son règne. Il y a encore autre chose, c'est dans la sagesse, ne pas s'appuyer sur soi-même. Proverbe 3:5, ne pas s'appuyer sur soi-même. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est-à-dire celle que tu croirais avoir en toi-même, celle qui viendrait de tes propres pensées et qui ne serait pas celle de Dieu. Ne t'appuie pas, ne te confie pas sur cette sagesse-là. Ne dis pas, moi je pense, j'ai résolu que, etc., n'est-ce pas? Mais appuie-toi sur la sagesse même de Dieu. Vous savez que dans Jérémie, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie en lui-même, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ça, c'est tellement important que je n'insiste pas non plus. Mais je voudrais maintenant, avant de terminer, vous montrer les effets de la sagesse. Nous venons de voir rapidement la sagesse. Il y aurait bien plus de choses à étudier, mais je vous laisse le faire. Faites-le. Étudiez, n'est-ce pas, tous ces points que nous avons eu, ces différents aspects de la sagesse. C'est très bien, c'est très bon, voilà, une étude et une méditation à faire. Mais les effets de la sagesse, eh bien, les effets de la sagesse seront une prolongation de la vie. La vie va, même sur cette terre, prendre son cours, bien entendu, cela ne fait pas échec à certains plans particuliers que Dieu pourrait avoir, par exemple pour les martyrs, n'est-ce pas? Leur vie est interceptée, mais ça c'est quelque chose, je puis dire, de particulier. Conséquent, nous voyons ici des généralités. Prolonger la vie, deuxième effet de la sagesse, santé et, on peut dire, équilibre, excellent équilibre, santé et bon état organique de général. Non seulement la santé, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'absence, vue comme l'absence de tout état pathologique, mais mieux encore, une force contre toute invasion, infection quelconque qui pourrait se présenter, qui se présente toujours, n'est-ce pas, ou tout désordre entraînant un état pathologique, n'est-ce pas, une résistance par conséquent à ces états pathologiques, une résistance, une force qui va être une résistance. Notez que certains médecins connaissent très bien, je parle de certains médecins, c'est-à-dire les médecins qui étudient essentiellement la santé. Beaucoup de médecins sont employés à soigner des malades. Ils ont devant eux des malades, toujours des malades, des malades, des malades, n'est-ce pas? Et puis ils partent au plus pressé. Alors, il y a beaucoup de médecins, ils ne font que ça. Et puis quand le malade est guéri, il est sorti de ça, il ne s'en occupe plus. Mais il y a d'autres médecins qui se sont attachés à l'état de santé. Ne pas considérer toujours des malades, mais des gens en bonne santé, en santé, pour voir, n'est-ce pas, s'ils étaient prémunis contre tel ou tel accident pathologique. Eh bien, et quel était leur degré de résistance. Eh bien, certains médecins ont vu cela, n'est-ce pas, l'état de santé lui-même a des degrés, et il peut être gagé sur une force de résistance de l'organisme avec une autodéfense de l'organisme magnifique. Et c'est ça, c'est cet état de santé-là qu'il faut avoir. Mais il ne dépendra pas, cet état de santé ne dépendra pas des dispositions que nous pourrions prendre uniquement sur le plan physique, sur le plan matériel. Cet état de santé, cet état de résistance optima ne dépendra pas ne sera pas fonction 100%, n'est-ce pas, des dispositions que nous pourrons prendre. Mais il dépendra essentiellement de notre état spirituel, lequel exige, lui, la sagesse. C'est pourquoi je dis, dans les effets de la sagesse, et je vais vous le montrer, il y a cette santé et cet état de résistance, cette vigueur, n'est-ce pas, physique. L'organisme a été fait pour parer à toute agression, qu'elle vienne sous une forme ou sous une autre, n'est-ce pas, à tout état d'agression, l'organisme est fait, est construit. Il y a en lui des choses étonnantes, n'est-ce pas, des dispositions étonnantes qui jouent automatiquement lorsque une agression se produit. Eh bien, il faut que cette autodéfense soit armée et soit toujours là, prête à agir. C'est alors que la maladie se trouve écartée. Vous savez que, personnellement, je vous ai déjà dit, mais enfin, je le dis très humblement, pas par glorieux du tout, au contraire, mais pour la seule gloire du Seigneur, eh bien, nous avons vécu 4 dans notre maison, puis nous ne sommes pas tout jeunes, n'est-ce pas, nous ne sommes pas de première jeunesse, n'est-ce pas. Bon, eh bien, nous avons notre mémé là qui a 88 ans, nous avons eu un fils qui a eu la polio très jeune, à l'âge de 4 ans, hein. Eh bien, depuis des années, nous vivons absolument sans recours aux médecines, hein, sans aucun recours, et ce n'est pas une consigne que nous nous sommes donnée a priori, c'est que nous n'en avons pas besoin. C'est ça qui glorifie le Seigneur. Parce que si nous avions décrété, nous, on ne veut pas, n'est-ce pas, voir l'ombre d'un médicament. Non. Non. Mais on n'en a pas besoin. Enfin, et les médecins, je vous assure qu'ils ne nous voient pas souvent. Et il fallait qu'ils vivent avec nous, les malheureux, je les plaindrais. Mais je ne leur veux pas de mal, n'est-ce pas? Mais tout de même, je ne leur veux pas du bien au point, n'est-ce pas, de souhaiter être malade pour leur faire plaisir. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez qu'on peut vivre, enfin, avec évidemment une foi, une grande foi. Là, il faut compter, mais il ne faut pas que cette foi soit simplement une foi qui appelle le secours n'importe quand, dans n'importe quelle condition. Ah non, il faut que ce soit une foi d'obéissance qui nous permette d'obtenir ce que nous étudierons, nous verrons, la faveur de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et c'est de ces bienfaits, c'est de cette faveur de Dieu que viendra cet état de santé, de résistance particulier. Le Seigneur nous veut dans cet état, chers amis. Il nous veut. La preuve, n'est-ce pas, c'est que Jacques dit, si quelqu'un parmi vous est malade, si quelqu'un est malade. Et l'apôtre Paul, quand il nous parle dans 1 Corinthiens 11 de la Sainte Seine, n'est-ce pas, nous dit, c'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas discerné le corps de Christ. Ah, ils ont pris indignement la Seine. Alors, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup de malades et même certains sont morts. Dieu nous veut vraiment sauvegarder de tout cela. Notre corps va vieillir. Je vous montrerai que le vieillissement doit être une chose harmonieuse elle-même. Il est dans le plan de Dieu. Ben, nous sommes toujours dans ce temps. La mort du corps est là, n'est-ce pas? Mais le Seigneur Jésus nous a dit que celui qui croit en moi qui vit sur cette terre, c'est-à-dire qui est présent sur cette terre et qui croit en moi, ne mourra jamais. La mort de son corps, c'est pas du tout un problème. C'est pas un problème du tout. Bah, en tout cas, je vais ce matin m'arrêter sur un verset, Proverbe 3, verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Voyez que l'origine est spirituelle. « Ce sera, si tu le fais, si tu le fais, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Que veut dire un rafraîchissement ici? Ce sera un regain de vigueur. Ce sera cette possibilité que gagnera tes os, c'est-à-dire tout ton organisme. Quand on disait les os autrefois, ça voulait dire l'organisme dans son entier. Enfin, tout ton organisme va avoir un rafraîchissement, c'est-à-dire un retour vers l'idéal. Il va donc retrouver cette autodéfense contre la maladie, contre toute agression, au point qu'il va lui aussi être dans la victoire contre tout cela. Voilà. Eh bien, nous en verrons plus la prochaine fois.